jase.
Émission en jase, il est précisément midi 42. Ton émission, on fait le tour de l'actualité la plus importante pour vous. Et également, on fait des analyses aussi de ce qui se passe. On va avoir une analyse justement d'Éric Sauvé, exo-gradé des Forces armées canadiennes. On va parler de la situation en Iran. Le Pentagone qui ne se serait pas bien préparé alors que l'Iran se prépare depuis 1980. Ça va être très intéressant comme discussion. Et également, on va parler de cette guerre entre le maire Marchand de Québec et le maire Sylvain Junot de Saint-Augustin-de-Desmaures concernant le projet de tramway. 418-971-1021, continuez à interagir avec nous, c'est toujours intéressant de vous lire. Et également, n'oubliez pas que sur le blvd.fm, c'est les meilleurs moments de l'émission qui s'y retrouvent immédiatement après l'émission. Pascal, en nouvelles, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir?
Oui, bien moi, je demande aux auditeurs au 88-971-102 un peu d'infos sur la circulation. Parce que quand je regarde les cartes actuellement, tu sais, il s'est passé des choses, là, notamment sur le pont puis à la porte. Il y a eu un camion qui a versé.
Oui, ce fameux camion-là, en effet.
On a tassé le camion qui a versé de la chaussée, mais ça a vraiment ralenti le secteur. Puis ça a ralenti aussi comme Henri IV Sud, congestion entre chemin des Quatre Bourgeois et le pont Pierre Laporte. Ça, c'était toujours effectif dans les dernières minutes, mais je vois pas si... On encore au super rouge comme tantôt. D'accord. Les pannes électriques, ça commence tranquillement à baisser. Je parlais à la porte-parole d'Hydro-Québec tantôt, elle me disait que ça devrait être établi d'ici le souper. On a changé un peu le discours dans les dernières minutes parce qu'initialement, c'était plus des bris d'arbres qui avaient tombé sur les installations, mais là, il y a vraiment des poteaux qui ont cassé avec les rafales de vent. Capitale nationale, encore beaucoup de pannes. Chaudière-Appalaches, même chose. Et partout dans la province, c'est assez important. On surveille ça pour vous. Trafic de stupéfiants à Québec, il y a un réseau lié au Hells Angels qui est visé par une opération policière. C'est autant la Sûreté du Québec que le service de police de la Ville de Québec qui sont là-dessus depuis le début de la journée. Il y a eu des arrestations et il y a également eu perquisitions. On attend toujours plus d'informations, mais c'est un bilan qui devrait être diffusé là, plus tard dans la journée ou encore dans les prochains jours. C'est vraiment un groupe qui agissait sous l'égide des Hells Angels en matière de trafic de stupéfiants. Agression sexuelle en position d'autorité, il y a un ancien député du Bloc qui a été arrêté à Québec. Bloc québécois, mais entre 2008 et 2011, c'est là où Pascal-Pierre Payet était député. C'est un enseignant de formation, il a 47 ans et on est allé chercher dans le secteur de Saint-Augustin-de-Desmaures ce matin. Chef d'accusation, agression sexuelle en position d'autorité, agression sexuelle aussi et contact sexuel. Quarantenaire qui devrait comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec. Pour deux événements, en fait, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a un qui se serait passé en 2006 et un autre en 2024. Les travaux préparatoires du tramway, ben ça va perturber les déplacements dès samedi. On parle d'autobus où le trajet sera modifié, des ajouts de sens unique, des retraits de cases de stationnement, plein de changements comme ça. On peut en faire une liste, on va le faire plus tard, mais quand même, vous pouvez aller voir les sites du RTC et ceux de la Ville pour avoir toute l'info. Trois mois d'enquête, l'UPAC n'est toujours pas en mesure d'établir l'authenticité des textos liés à l'affaire des Brownies ayant éclaboussé l'ex-chef libéral Pablo Rodriguez. Selon des sources, bien, les enquêteurs envisagent même que ces messages aient été fabriqués. Puis la presse, elle rapporte qu'on veut faire la lumière sur le dossier, mais ça se peut qu'on demande au Journal de Québec de révéler ces sources. Mais c'est une démarche que le média dit vouloir contester. Là, on veut protéger le travail journalistique.
On vient d'en discuter avec Antonine Iacarini dans le caucus qui est du lundi au jeudi de midi à midi 30. Ça se retrouve sur le blvd.fm et sur YouTube.
Oui, puis en terminant, bien, je vais en parler de ce qui se passe au Moyen-Orient
parce que
Donald Trump a repris la parole dans la dernière heure. Au Détroit d'Ormuz, on veut que ça débloque. Mais on a demandé l'aide des alliés, puis ça n'a pas répondu présent. Donald Trump, maintenant, dit qu'il n'a jamais eu besoin de l'OTAN.
Il n'a pas besoin de personne, Donald.
Donald Trump a fait du Donald Trump. Et c'est quand même important à nommer, mais il y en a un qui l'a quitté. Hein? Dans les dernières minutes, on a appris qu'un de ses proches, un qui travaillait à la cellule antiterrorisme aux États-Unis, a décidé que c'était pas les États-Unis qui auraient dû entrer dans cette guerre-là, que l'Iran ne menaçait pas les États-Unis. Alors, il y a eu un fort malaise avec tout ça et il a décidé de démissionner. On en parle avec notre invité.
Oui, exactement. On reçoit Éric Sauvé, exo-gradé des Forces armées canadiennes et président d'Innovigo. Éric, merci pour ta présence à l'émission d'Enjase aujourd'hui.
Oui, merci à vous.
Éric, dis-moi donc, tu m'as envoyé une vidéo ce matin que j'ai regardée où on disait que l'Iran se prépare depuis 1980 à une attaque américaine et qu'ils étaient prêts justement à survivre. Et du côté du Pentagone, bon, ça serait mal préparé à cette résistance iranienne-là. Est-ce que j'ai bien compris?
Ben oui, le but de l'Iran dans cette guerre-là, c'est vraiment de survivre. Eux, ils ont survécu à leur première guerre. Dans le fond, la révolution a eu lieu en 79. Puis de 80 à 88, ils ont subi les assauts de l'Irak. Ça, on s'en rappelle pas très bien, mais ça fait des centaines de milliers de morts. Il y a eu des gaz chimiques. Fait que ça a été comme un traumatisme pour l'Iran, qui s'est dit, il faut que je puisse survivre à des futures attaques comme ça. Puis en 2003, ben ça, on s'en rappelle plus, Saddam Hussein a été chassé d'Irak dans de quelques mois. Fait que l'Iran s'est positionné, a décentralisé son commandement pour éviter que ça lui arrive aussi un jour.
Donc là, les États-Unis sont embourbés. Le détroit d'Ormuz qui est fermé à l'heure actuelle. Les pétroliers ne peuvent pas passer. Et là, il y a plusieurs stratèges militaires qui disent que ça va prendre une intervention au sol. Est-ce que tu es de cet avis-là?
Bien, l'intervention au sol, c'est extrêmement risqué. Là, ce que ça prend, c'est vraiment de débloquer le détroit parce que on entend beaucoup parler, mais le détroit, c'est 20 % du pétrole mondial. Moi, j'ai regardé les cartes satellites. Là. Il y a des navires pétroliers et des navires de cargaison de chaque côté du détroit. Il y en a justement un qui a été frappé hier. C'est qu'ils sont en position vulnérable. Il faut l'ouvrir. Là, pour l'ouvrir, là, c'est carrément une bulle qu'il faut défaire comme une couche d'oignon, dans le fond. Il faut aller frapper les lanceurs, il faut aller frapper les radars, il faut frapper les mines, les drones. C'est extrêmement complexe. Puis il n'y a pas un pays qui veut s'aventurer. Peu importe comment Donald Trump va les inviter puis va essayer de les soudoyer, là. Il n'y a pas un pays qui veut se mettre en danger parce que le détroit mesure 39 km de large. Puis les missiles arrivent très vite à cette distance-là. Fait que ça va prendre vraiment une opération importante pour essayer de débloquer tout ça.
Est-ce qu'on peut débloquer tout ça avec une opération typiquement aérienne comme les États-Unis font depuis le début du conflit?
C'est probablement ça qu'ils vont essayer parce que Donald Trump n'a pas préparé l'opinion publique à avoir des pertes énormes. Puis quand on parle de troupes au sol, bien on peut perdre beaucoup de monde. Fait que sûrement que le plan du commandement militaire, c'est de le débloquer par des frappes aériennes. Mais le meilleur moyen de le débloquer, s'ils le font de façon intelligente, c'est de tenter de négocier avec l'Iran. Puis peut-être que la Chine ou d'autres pays importants pourraient se porter garant des négociations pour tenter de débloquer l'impasse. Mais il faut comprendre que c'est la dernière carte du régime iranien pour sa survie. Puis on savait que ça allait se passer. Et c'est quand même assez hallucinant d'apprendre que les Américains n'avaient pas de plan de contingence au cas où le détroit serait bloqué comme il l'est en ce moment.
Il y a beaucoup de questions. Tu sais, Pékin pourrait entrer dans le jeu, comme vous dites, avec la Chine pour les négociations, etc. Mais j'ai lu hier que les États-Unis avaient dit à l'Iran, « Vous pouvez passer, on va vous laisser passer avec vos paquebots, avec vos cargaisons. » Est-ce que l'Iran a obtempéré? Parce qu'il y a quelques bateaux qui se seraient essayés, puis si jamais, ben, ils croulent pas sous les bombes des Américains ou d'Israël, ça pourrait pas ouvrir cette voie-là, puis qu'on ait un consensus?
Mais en fait, c'est vraiment l'Iran qui contrôle le flot des bateaux dans le secteur. C'est pas les États-Unis. Les Iraniens, ils ont une marine de garder la révolution équipée de vedettes rapides. Ils ont des mines, mais c'est pas des mines style Deuxième Guerre mondiale qui flottent à la surface de l'eau. C'est des mines intelligentes qui peuvent lancer par roquette au fond de l'eau. Puis ces mines-là peuvent attendre puis déterminer quel navire ils vont frapper. Ils ont aussi des drones. Ils ont des missiles lancés de la côte à partir de pick-up qui se déplacent. Fait que c'est pas l'Amérique qui a le gros bout du bâton en ce moment. C'est vraiment l'Iran qui décide qu'est-ce qu'ils vont frapper, quand ils vont frapper, puis quel navire ils vont laisser passer. Fait que les alliés comme la Chine, les pétroliers peuvent passer. Mais il y a un risque, parce que le commandement est décentralisé, il y a un risque d'un mauvais calcul de l'Iran qui va frapper un navire, soit coréen ou soit japonais, ou peut-être même français ou britannique, qui a un risque énorme d'élargissement du conflit à partir de là.
Pour rappel, on parle avec Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et président d'Inovigo. Éric, vrai ou faux, Donald Trump n'a pas besoin de l'OTAN pour justement résoudre le conflit en Iran?
C'est certain que l'OTAN ne se mêlera pas de ça. Trump a les ressources, mais il ne veut pas envoyer ses propres navires parce qu'il sait que le risque de perte est élevé. Fait que la réponse, c'est qu'ils ont les moyens, ils ne veulent pas le faire. ils vont demander à des alliés. Puis là, alliés, c'est un bien grand mot parce que ces gens-là n'ont pas été consultés pour la guerre, puis on leur dit, dans le fond, viens réparer les dégâts que j'ai faits. Fait que c'est probablement presque certain que l'OTAN va dire non. Là, il y a des pays comme la Corée du Sud ou le Japon qui dépendent beaucoup du pétrole et des biens, vont peut-être y aller, mais pas pour aider les Américains, vraiment juste pour s'arranger pour que leur bateau à eux passe.
En terminant, Eric, je me transporte juste à côté de l'Iran, à proximité avec le Liban. Est-ce qu'Israël jouerait un jeu dangereux d'envoyer des troupes au sol là-bas?
Bien, le Liban, c'est un État failli, qu'on dit, un État échoué, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de gouvernement central. Ça fait longtemps qu'Israël sait qu'il va y avoir une guerre avec le Hezbollah, qui est un allié de l'Iran. Là, c'est un gros problème. On parle de 800 000 personnes déplacées au Liban. Ça va devenir une catastrophe humanitaire. Puis Israël se retrouve à combattre sur deux fronts. Mais je pense que les buts d'Israël en Iran ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Je pense qu'Israël pourrait se retirer assez rapidement quand ils vont frapper les cibles de choix, puis ensuite de ça, se retourner, puis peut-être porter le coup de grâce au Hezbollah. Fait que c'est une autre situation qui se développe à regarder dans les prochains jours.
Oui, parce qu'Éric, il ne faudrait pas revivre une bande de Gaza, là, épisode numéro 2, avec une crise humanitaire aussi importante.
Oui, c'est ça. Le risque du crise humanitaire est assez important dans le secteur. On sait que les Israéliens ont pratiquement étouffé Gaza, une petite bande avec 2 millions de personnes pendant longtemps. Et il pourrait y avoir des problèmes assez importants aussi dans la région du Liban, puis peut-être même une évacuation des Canadiens aussi dans le secteur.
Éric Sauvé est vétéran, ex-haut-gradé des Forces armées canadiennes et président d'Innovigo. Merci beaucoup, Éric, pour tes éclaircissements aujourd'hui dans le dossier au Moyen-Orient. Et on se reparle prochainement.
Merci, à la prochaine.
Salut, Éric. Éric Sauvé, très intéressant comme conversation avec lui. On comprend, Pascal, qu'on a complètement sous-estimé du côté des Américains le désir de résistance de l'Iran, c'est ce qui nous amène dans ce bourbier-là.
Oui, absolument. Puis je suis allée relire ce que j'avais lu par rapport au paquebot iranien. Puis, c'est vrai qu'ils prennent la chance un petit peu, puis ils vont, un peu tranquillement, là.
Ouais, oui.
Mais je me demande si c'est pas ça la solution. T'sais, au moins débloquer le canal d'Hormuz, mais c'est le gros bout du bâton de l'Iran.
En effet.
C'est comme ça qu'ils réussissent à avoir le dessus sur Donald Trump.
Et à garder justement cette pression-là sur les alliés, je le mets en guillemets, des Américains, les alliés naturels qui disent « Hey, là, on se retire de là, on a besoin de cette ressource-là qui est le pétrole. » C'est vraiment de cette façon-là que ça se produit.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
D'une guerre aux missiles, on passe à une guerre verbale, Pascal CV, parce que hier on recevait le maire Sylvain Junod en entrevue ici à Boulevard 102.1. Il voulait nous parler du projet de tramway, de cette séquence qu'il ne trouvait pas de bon goût par rapport à l'abattage d'arbres de 1500 arbres, dont une très grande majorité vont se retrouver sur le boulevard René-Lévesque. Et là, ben, on se disait, Pascal, bon, le maire Marchand va revenir de l'Alberta. Lundi prochain, il a promis à la gang du retour, Denis Véro et Audrey, de venir faire son tour mensuel. Donc, on va reparler de ça là. Mais surprise, un document de 6 pages est arrivé dans nos courriels!
Oui, on a répondu, en fait, à ce que M. Junod disait sur nos ondes hier. C'est comme si on s'est dit, hey, lui a eu son droit de parole. Moi, j'étais à l'autre bout, là, j'étais à Ottawa en ce moment. Je veux mon droit de parole aussi.
Exactement. 3 points étaient mentionnés dans la lettre de M. Junod. Je l'ai mentionné, la séquence qui n'est pas la bonne pour la coupe d'arbres, le financement qui n'est pas assuré et le projet qui ne repose pas sur une gouvernance solide. Je vous invite, premièrement, on va écouter Sylvain Junod qui donne une petite explication au début sur la séquence, mais surtout dans cet extrait-là, sur le financement du tramway, qui est un problème pour lui.
Maintenant qu'on a dit ça, bien, tout grand projet de cette envergure, on parle quand même de plusieurs milliards, là, doit suivre les règles de l'art. Dans les règles de l'art, bien, les gestes irréversibles, ben, on les pose pas au début, on les pose quand on est sûr d'avoir tout bien attaché. Et dans ce cas-ci, ben, le financement, à moins que quelqu'un me sorte des documents, là, j'ai pas d'assurance de grand-chose. On a une espèce d'esquisse, mais montant de 7, quelques milliards qui date de, un estimé qui date d'il y a 2 ans, un gouvernement fédéral qui parlait de 1,4 milliard qui représente donc pas 40%, pas d'engagement à aller plus haut, mais des espèces de peut-être que.
La réponse de Bruno Marchand, Pascal, a été de dire « Hey, écoutez, moi, là, le financement, là, c'est faux ce que Sylvain Junod dit. Il est assuré. Le projet est porté par le gouvernement du Québec qui a confirmé qu'il en assumerait entièrement le financement. C'est lui qui assume le rôle de maître d'ouvrage et qui, à ce titre, détermine les objectifs du projet, l'échéancier et le budget. » Mais Pascal, moi, j'ai un problème avec la réponse de Bruno Marchand parce que dans l'entente du tramway, le gouvernement peut se retirer jusqu'en 2027 pour le faire parce que, admettons que le tramway augmenterait de coût par rapport aux 7,6 milliards, ce qui risque d'arriver parce que ça va être une évaluation d'il y a 2 ans rendue en 2027. Puis si c'est CDPQ Infra là, qui finance, là, ça va faire comme pour le REM. C'est-à-dire qu'ils vont se refinancer avec des contrats d'exploitation. Qui va payer pour ça? Le RTC. La RTC est endettée par-dessus la tête. Fait que je vois pas de solution enviable si le gouvernement fédéral n'investit pas le fameux 40%. Es-tu d'accord avec moi?
Oui et non. Oui et non, parce que je me dis, il s'est tellement engagé, là, Bruno Marchand, là, qu'il va trouver comment. Puis ouais. S'il faut endetter, il faut retaxer, puis j'ai l'impression qu'il va le faire. Fait que c'est là où, lui, il va de l'avant parce qu'il doit être convaincu qu'il va de l'avant. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on est dans les travaux, là, dès samedi.
En effet.
Il ne peut pas rebrousser chemin. Puis on était dans les travaux il y a ouais. quelques années même. Là, mm-hmm. On a commencé dans la base ville et tout ça.
Il va-tu trop vite, Bruno Marchand? C'est le seul qui va vite de même. Parce que je regarde CDPQ Infra. On attend justement printemps 2027 pour les nouveaux travaux. Je regarde le gouvernement du Québec. On est toujours sur le bout des lèvres. À... Oui, le tramway va se faire, mais on dirait que... On n'est jamais sur des assises solides.
Mais encore Jean-François Simard, on peut le faire entendre.
Oui, on va
là,
le faire entendre,
là,
certainement.
Le ministre de la Capitale-Nationale, puis il s'est un peu fait demander, on est-tu sûr là, que le tramway, ça va se faire?
On attend ce financement. Moi, j'ai bon espoir. J'ai une assurance morale que ce financement arrivera. Moi, j'ai confiance que nous allons réunir toutes les conditions gagnantes, y compris les conditions financières, afin de mettre le projet du tramway sur les bonnes voies.
Assurance morale? Mais ça, ça me rassure pas, moi.
Moi, il me convainc pas, puis il a pas l'air convaincu. Mais tu sais, dans ce jeu-là, là, puis j'en parlais tantôt avec Mathias, notre collègue, lui, il lisait un peu entre les lignes, selon les conversations, qu'eux, ils vont comme ça parce que ils veulent quand même que le fédéral mette le 40% puis l'enveloppe sur la table. Mm-hmm. Puis si tu dis, ah non, on le fait pareil, peut-être que le fédéral, ça va venir à ses oreilles, ils vont dire, ben arrangez-vous.
Ben, c'est
vous n'avez pas besoin de mon enveloppe parce que je la mette ou pas, vous allez le faire. Fait qu'il faut peut-être garder l'argent dans ses poches.
En effet.
C'est peut-être ce jeu-là en coulisses qu'on voit pas puis qu'on est en train de taper sur la tête à des M. Simard, ben, à des M. Ah, Marchand. Oui. De... Mais tu prends tout ça, là. Puis c'est quoi qui a un... C'est quoi le point commun?
Bien, c'est la séquence du projet qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est dans tout